Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, l'émission au double effet qui se coule. Eh bien oui, vous pouvez nous écouter en premium dès 18h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Tiens, je vais faire une petite remontée. La radio à l'ancienne, j'adore ça. Ce soir, une émission tous en scène avec Verino au programme, un nouveau one-man show, titre VOD pour Verino On Demand. Il faut dire que vous avez créé votre propre plateforme de vidéos à la demande. Je vois que la petite entreprise ne connaît pas la crise. Verino, bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Allez, on se fait une petite remontée.
Je suis ravi d'être le jour des remontées.
Ah, j'adore ça. À vos côtés, François Armanet filme la scène rock au féminin pluriel de Françoise Hardy, Lou Doyon, en passant par Brigitte Fontaine, Elie Medeiros, Imani et j'en passe. Oh les filles, les femmes s'en mêlent. En attendant L'Éminé, ça sera votre nouveau roman à la rentrée. François Armanet, bonsoir.
Bonsoir.
On est mercredi, c'est le jour de l'Afrique en solo. La chronique, c'est la dernière de la saison, Soro Solo.
Alors, absolument.
Vous nous emmenez où ce soir?
Cette semaine, je vous emmène dans l'océan Indien. C'est pour retrouver le Comorien Elias qui nous apporte un nouvel album, Amani Way.
Parfait. Et dans le Énervé, la suite ce soir, FFF. Comme festival du film de fesses. Ça ne vous ressemble pas, Benoît Lagarde?
Si, mais c'est ma dernière de la saison aussi. Et vu que c'est la canicule, on se fout tous à poil en deuxième heure à l'occasion du festival du film de fesses.
Chiche, bon, vous savez, j'ai aucun problème avec ça.
Je sais bien, Laurent. Quatre invités pour en parler. Léa Chénault, la programmatrice du FFF. Nicolas Mehdi, réalisateur. Romy Alizé, photographe, réalisatrice et performeuse. Et Hortense Bellotte, ex-comédienne et historienne de l'art.
Oui, avec elle va faire une conférence. Le titre de la conférence?
Ah, la conférence, je l'ai pas noté sous les yeux, mais on vous la dira bien.
Ça commence
tout à l'heure.
Par du cul.
Oui, très bien. C'est du cul et de l'art.
Voilà, c'est ça. Le Énervé, la suite, c'est parti. Non, ce n'est pas la suite encore. Le Énervé, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Et on a un technicien au taquet qui fait partir les génériques au moment où il le fallait, c'est moi qui ai redoublé. One Man Show 3.0 pour vous Verino, rock au féminin pluriel au cinéma pour vous François Armanet, vous vous connaissez l'un l'autre?
On s'est vraiment longuement croisés en loge pendant à peu près 4 minutes.
Parce que ça voulait dire que j'étais en retard sur le programme.
Non, on n'a pas parlé, on s'est juste dit bonjour.
C'est vrai.
Mais c'est bien, mais de façon très civile, très
exactement.
Courtoise.
Exactement, on est deux personnes
très polies.
Sous le meilleur signe.
Très bien, alors je fais les présentations.
Trop poli pour être honnête, peut-être.
Ah bah ouais.
C'est ça la question.
C'est surtout pour Verino. Je vous fais des présentations.
Fallait être honnête pour être là.
Verino, la trentaine, humoriste, mais pas que, producteur d'humoristes et puis surtout connecté avec ce spectacle VOD que vous avez découpé en 4 temps pour le diffuser sur votre plateforme de vidéos à la demande. C'est quoi l'intérêt en fait au départ?
D'abord, il ne s'agit pas d'un nouveau spectacle,
non.
C'est du spectacle que j'ai joué depuis maintenant 3 ans, un peu partout. L'idée était de réussir à obtenir ce que j'obtiens en salle, c'est-à-dire qu'on a une vraie captation du public.
Ouais.
On a en salle sur 1h30, on tient les gens un peu, pas comme on veut, mais en fonction de ce qu'on est capable de faire. Il me semble que on n'avait pas encore réussi à obtenir ça dans les captations de stand-up où on capte ça sur 1h30. Mmh. Aujourd'hui, le monde y bouge beaucoup. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai vraiment plus le temps de regarder un spectacle d'une heure et demie. Mon idée, c'était de réussir à faire en sorte que mon spectacle soit entièrement captable par celui qui va le regarder. Et donc, je l'ai
découpé en 4 épisodes.
Oui, j'ai fait un peu plus que juste découper parce que j'ai vraiment créé des mini spectacles de 25 minutes.
C'est-à-dire qu'il va falloir recréer une dramaturgie à l'intérieur.
Ah, c'est ça, il faut quand même une bonne chute
autre
à la
écriture,
fin.
Parce que... Exactement. On va parler de la chute parce que la chute, elle passe par la fiction et c'est quelque chose qui est assez nouveau. On va en parler. C'est pas la première fois que vous travaillez et que vous réfléchissez à ce que permet Internet. Juste un mot sur Dis donc Internet. C'était une pastille vidéo que vous aviez créée, une pastille vidéo de quelques minutes.
Ça l'est toujours, je continue.
Ça l'est toujours, ouais, un sketch inédit chaque fois. Quel était le principe? Vous expliquez à nos auditeurs et à François.
Eh ben, je vous explique. L'idée, pareil, c'est de réussir à faire en sorte de capter ce rire-là qu'on obtient en salle parce qu'on est tous ici, et de capter un nouveau public, celui de YouTube, celui d'Internet, celui qui consomme rapidement et qui pour autant reste un consommateur. C'est-à-dire qu'on l'a un peu boudé au début de l'apparition de ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'on se contentait de faire du stand-up nous sur le plateau, et puis il me semble qu'il manquait cet outil-là, cette manière de régulièrement venir précisément taper dans le cerveau du spectateur. Moi, j'ai eu l'idée de ce truc-là sans faire exprès, mais en gros, mon idée, c'était de réussir à faire ce qu'on appelait du podcast à l'époque, mais aujourd'hui ouais, podcast c'est vraiment podcast, plus de la radio, mais c'est du face caméra, parler aux gens de, alors c'est devenu de l'actu. Au début je racontais des sketchs et puis au fur et à mesure je me suis enrichi, je me suis un peu ouvert sur le monde, faut le reconnaître, avec l'écriture. Quand on écrit 10 minutes 9 par semaine, on se retrouve à creuser un peu plus que
c'était
simplement
tourné où?
C'est tourné au théâtre, toujours.
C'est ça, c'était tourné au théâtre, c'était pas du tout vous dans une chambre, comme on peut voir sur
tous les
YouTube.
Vendredis soirs, au théâtre, j'ai un écran géant derrière moi quand je suis sur scène, et à la fin du spectacle, je me retourne pour tourner ces 5 dernières minutes, c'est tous les vendredis, et ça sort le samedi matin.
Comme ça, vous bénéficiez aussi du public qui est venu au théâtre.
Et je me rends compte qu'il y a des moments où c'est effectivement nécessaire, parce que quand j'ai traité des sujets comme les attentats de Charlie, ou tous ces sujets horribles qui sont passés depuis des années, quand on n'a pas le soutien du public, on a vite un sketch qui est très, très, très malaisant, effectivement, c'est important de, et d'une, désamorcer le sujet avec des vannes, et de deux, avoir le public qui les soutient, ces vannes-là.
François Armanet, vous suivez un petit peu l'école des humoristes, ou vous en êtes resté comme
non,
moi?
Non, non, je plaide coupable, absolument pas.
C'est dur aujourd'hui de suivre tout ce qui se fait, pour le coup.
C'est énorme.
Que si on veut écouter de la musique, aller au théâtre, voir des films.
On ne peut pas tout faire.
Vivre. Et lire beaucoup.
C'est un enfer.
Je lis beaucoup, donc il faut réussir en même temps à se débrancher.
C'est impossible. Voilà.
Je plaide coupable. Je connais assez peu.
Alors, en tout cas,
bravo en tout cas.
Ouais, sur le principe, on va revenir justement sur ce qui a développé dans le spectacle. Alors, ce qui vous intéresse entre autres, parmi vos lectures, parmi le cinéma, c'est le rock pour vous, François Armanet. Vous avez été journaliste et rédac-chef à Libération, aujourd'hui au Nouvel Obs. On vous doit, je crois, la couverture de Camilla Jordana en Marianne. C'était votre idée, c'est ça?
C'est
ce qu'elle raconte.
Oui, c'est une idée collective et qu'il faut rendre hommage donc à l'Obs, au Nouvel Observateur.
À l'Obs, ouais.
Voilà. En tout cas, d'avoir eu cette idée. Et elle est formidable parce que...
Il y a eu pas mal de commentaires. Vous avez reçu du courrier?
Oui, enfin en tout cas, comme le dit Camélia, en tout cas c'était formidable de pouvoir montrer que Marianne pouvait avoir en tout cas beaucoup de gueules différentes et être une arabe.
Est-ce que ça avait véritablement créé une polémique parmi les lecteurs de l'Obs?
C'est-à-dire qu'après le Bataclan, ça a été dur, y compris pour elle. Enfin, elle le dit très bien, c'est-à-dire quand elle est en star, parfait, et quand elle est en Woody dans les rues et en scout, c'était moins évident. Et pour quelqu'un qui, par ailleurs, a été très touché, qui a chanté pour la France et pour les victimes aux Invalides. Donc, en tout cas, il y avait cette idée de, oui, elle incarne en tout cas notre France.
Mercredi prochain, sortie en salle de votre deuxième film, Oh les filles, on va en parler. Le premier, c'était La bande du Drugstore en 2002. Vous prenez votre temps, hein, François Armanet.
Écoutez,
si on veut
aller au théâtre,
si on veut écrire et faire un film, alors je travaille beaucoup dans mon journal, donc c'est après un livre tous les 5 ans et un film tous les 20 ans. Donc
c'est un bon
rythme.
Le
prochain. Le premier avait été à Berlin, le second à Cannes, et dans 20 ans aux Oscars.
C'est parfait. La bande du drugstore, vous voyez ce que c'était, cette époque du drugstore, Vérino?
Mais non.
Alors, François Armanet, vous expliquez.
Honte à moi.
Vous l'avez vécu. Chose vue, chose vécue. Ouais. Non, s'il y en a un qui le représente de manière exceptionnelle, voilà, c'est Dutron, qui par ailleurs a chanté ces minets qui mangent le rond au drugstore. Donc c'était dans les années à peu près 65, milieu des années 60, et c'est l'espèce de dandy aux petits pieds, de blouson doré, passionné de fringues et de frimes.
Ouais.
Et
c'était votre cas?
Oui, c'était mon cas, oui.
Vous étiez en Renoma?
Très
soucieux de votre coupe de cheveux.
Oui, j'étais en Renoma et en Weston, comme on dit.
Ouais.
Dutron, il disait, habillé par Cardin, chaussé par Carvin. Parce que Jacques Lanzmann trouvait que ça rimait particulièrement bien. En plus, Jacques Lanzmann, lui, était à l'époque rédacteur en chef de Lui, et qui était installé sur les Champs-Élysées. Voilà, qui, comme Salut les copains, étaient des grands journaux des années 60. Et donc, il les voyait, ces minets. Il descendait de son bureau, il les voyait. Donc, il a pu écrire avec beaucoup d'humour sur ces petites crapules.
On va revenir sur Oh les filles dans quelques instants, mais tout de suite, on vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. On commence par vous. Un son très jeu vidéo, Vérino.
Ah.
Quel génie ce son!
Oh mon dieu, t'as vu comme d'un coup on y retourne, c'est un truc de fou. Hein.
C'est quoi?
Bah c'était triste évidemment, moi je suis... En vrai, je l'entends encore ce son-là, parce que j'ai racheté une Game Boy pour pouvoir rejouer à Tetris.
Avec vos enfants ou tout seul?
Tout seul, non, ils touchent pas à ça les gars. Non, je suis assez fan de ce jeu, j'essaye d'ailleurs de trouver les scores. Bon sang, c'est hyper difficile de trouver les scores des gens sur Internet, parce que aujourd'hui, à l'ère des smartphones et des consoles connectées, on arrive très vite à voir où on se situe. Et en Tetris noir et blanc, où il fallait à l'époque prendre une photo de notre performance ou la noter sur un bout de papier, on arrive très difficilement à trouver les performances des gens, quoi. Et
vous étiez fort
comme un bon je crois.
Vous êtes un bon joueur? Vous êtes classé? On est classé à Tetris?
Sur Tetris 99, le dernier, je me débrouille plutôt bien. J'imagine que je suis meilleur à Tetris qu'au stand-up.
J'imagine que si je vous pose la question, François Manet, vous allez me dire, si on veut aller au théâtre, si on veut lire, si on veut faire un film tous les 20 ans, bien sûr, on ne joue pas aux jeux vidéo.
Si on veut jouer aux jeux vidéo, pourquoi pas.
Ouais. Mais vous y jouez?
Non.
Voilà, on fait partie de la même génération. C'est parfait. Du rock, donc, pour vous, François Manet?
Oui, certes.
Vous vouliez les premières notes, donc on va arrêter tout de suite.
Les trois premières notes, du reste, c'est un riff absolument inouï. Qu'est-ce qui peut rivaliser avec Satisfaction qui est sorti en 65?
La musique de Tetris, peut-être? Enfin, je voudrais pas casser l'ambiance.
Moi, j'aurais dit James Bond, peut-être. Ah, dans ce qui est immédiatement reconnaissable, ce qui a pu être repris par tous et toutes. Enfin, d'Otis Redding à aujourd'hui, ces trois notes, avec ce son sale, distordu. Et surtout la nouveauté inouïe. Bon, et alors pardonnez-moi de rappeler en tout cas un vieux souvenir, mais je les ai vus en 65, les Stones.
Et où ça?
Je les ai vus à Munich, séjour linguistique allemand, seconde langue. Voilà. Ouais. Bon, donc à Munich en 65. Et Jagger de façon très provocatrice. Alors moi j'ai l'impression qu'ils ont repris les trois notes pendant 5 minutes, ce qui est évidemment absolument faux. Les morceaux duraient 2 minutes 30, 3 minutes. Mais ils ont dû faire ce don, ils ont dû le refaire 2 ou 3 fois, ce qui était complètement inouï à l'époque. Ouais. Et Jagger est arrivé en faisant le salut nazi à Munich en 65. Donc la provocation était quand même... il y avait toute la frustration et je ne peux pas obtenir de satisfaction en même temps. C'est sale, c'est frustré, c'est du rock. Mmh. Voilà.
Vous êtes musicien par ailleurs?
Non. J'ai une très belle guitare, chance inouïe que m'a offert mon ami Christophe, le chanteur, pour laquelle j'avais co-écrit une chanson.
Voilà, laquelle?
Enzo. Mm-hmm. Et donc, il m'a offert une guitare absolument fabuleuse. Donc, quand on l'apprend, on a l'impression qu'on sait jouer, mais je ne sais pas jouer.
Verino, vous êtes musicien?
Absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Donc je n'ai aucune anecdote à vous donner. Personne ne m'a offert quoi que ce soit.
Surtout pas Christophe.
Le pauvre.
De la musique pour vous pourtant, Verino.
Ah oui.
Verino, qu'est-ce qu'on entend?
C'est de la musique, mais c'est plus encore ce que ça raconte, ça. Moi, j'avais 17 ans et c'est le morceau que j'écoutais en boucle quand j'ai rencontré ma femme. Donc rien que là, de l'entendre, ça me met un petit truc. Hein.
Vous avez rencontré votre femme à 17 ans?
Eh oui, et j'ai 3 enfants avec elle aujourd'hui. Ah ouais. Elle est toujours attachée au radiateur, hein. Je veux pas qu'elle s'enfuit.
Mon Dieu.
Je prends pas le risque.
Humour à la texte, manifestement.
Non, j'espère que non. On verra ça après.
On verra ça à la fin de l'émission. Du cinéma culte, bien sûr, pour vous, François Armanet, du cinéma qui fête cette année ses 40 ans. Ah ouais, en fait, vous aimez bien les sons emblématiques. Hein. Le riff tout à l'heure pour Satisfaction est là.
Là, c'est de la musique qui est du cinéma. C'est-à-dire que c'est le souffle du rotor, c'est une hallucination. C'est le début d'Apocalypse Now, donc il est allongé sur son lit. Et entre les pales d'hélico du Vietnam, avec toute la moiteur en plus, et ce son. Oui, moi j'aime beaucoup les sons. Et là, c'est une plongée dans le cinéma avec une hallucination auditive, quoi. Les pales du ventilateur et le rotor.
Et ce film a été véritablement important pour vous?
J'avais été en Asie en Oui, au milieu des années 70. Donc, de toute façon, la moiteur du Vietnam me parlait. Tu sais pas que j'ai fait la guerre du Vietnam. Pas du tout. J'ai même peut-être plutôt manifesté contre la guerre du Vietnam.
Mais qu'est-ce que vous alliez faire au Vietnam? Du sport, non? C'est ça, j'ai pu lire. Vous faisiez un sport très précis à l'époque.
Écoutez, oui, je faisais de la... Alors, j'étais pas au Vietnam, mais j'étais en Asie, en Malaisie, et j'ai passé 8 mois à pratiquer de la boxe chinoise que je pratiquais déjà pas mal en France. Voilà. Ouais. Donc.
Et pas des trucs où vous cassiez des choses à main nue?
Si,
des êtres humains. Alors,
j'ai
gueule,
non, mais ça, comment ça s'appelle?
Non, voilà, c'est une autre histoire qui est loin d'ici, mais en tout cas qui a une liaison avec le geste net, comme dirait Jeanne Haddad ou Brigitte Fontaine, le geste du rock. Voilà, précis, net, sans bavure.
Alors, c'était quoi ce
geste? Donc, j'étais l'un des quatre premiers blancs à pouvoir être introduit au monastère Shaolin, et voilà.
Et
voilà,
vous avez des cheveux pourtant, et ça c'est important de préciser à la radio.
Et qu'est-ce qu'on
faisait? Absolument, je ne suis pas comme un bonze avec les fameuses marques.
Je suis déçu.
Mais qu'est-ce que vous faisiez peut-être?
Oui, on va casser des briques tout à l'heure.
En fait, c'est ça, c'est de casser...
Non mais la casse en elle-même n'a aucun intérêt, c'est le trajet évidemment qui mène à cette capacité, de même que quand on pratique de l'art martial, le seul but c'est de ne pas se battre. Enfin bon, on pourrait aligner les haïkus et les poncifs, mais c'est ça l'idée. Ouais.
On retrouve tout de suite une héroïne de votre film, François Armanet. Elle s'est installée actuellement à l'Olympia à Paris pour 3 soirs jusqu'au 1er juillet avant de prendre la route des festivals. Vanessa Paradis, bientôt la quille? Non, la plage.
Ah, la plage, c'est pour bientôt pour l'équipe du NRV. En tout cas, c'est signé Vanessa Paradis, une programmation « Oh les filles » de Jean-Baptiste Audibert.
Internet, ça me sidère. C'est un outil formidable, un outil extraordinaire. 35% des sites internet, c'est de la pornographie. On a fabriqué un truc merveilleux et nous, on est juste des gens qui se filment.
Le nouveau rendez-vous.
Il y a quelques années, on a envoyé une sonde dans l'espace pour dire aux extraterrestres qu'on existait. Et ben, on a envoyé tout Internet.
Laurent Goumard.
Je pense que c'est ce qui nous décrit le mieux à l'heure actuelle. C'est vraiment, ben, nous, on est là, on baise. Donc passez quand vous voulez.
Sur France Inter.
On va pas se priver. Vous êtes connecté, Vérino, humoriste, comédien, producteur, tout cela à la fois. On va en parler. D'abord, Vérino, ça vient d'où?
Ça vient.
Ce pseudo.
Faut que je trouve vraiment une réponse crédible. Ça vient de. Mais oui, parce que c'est ridicule. J'ai pris ce nom en hommage à Severino Ballesteros, dont le nom de famille ressemble au mien. Je m'appelle Olivier Ballesteros. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu parler de Severino Ballesteros. Je vais prendre un petit bout de son prénom pour en faire mon nom de scène. Et il y a 2 ans, je me suis rendu compte qu'il s'appelait Severiano Ballesteros. C'est tellement. On parlait d'échecs en antenne. Je crois vraiment, quand tu rates ton nom de scène, je pense qu'on est sur de la qualité.
VOD, donc le spectacle. Le premier, c'était Vérino se paye l'Olympia en 2019. Ça fait 10 ans de carrière.
À 2013. J'ai démarré en 2009 et j'ai tourné l'Olympia en 2013, oui.
Exactement. Donc 10 ans de carrière. Vous parliez de qui ou de quoi au départ? Est-ce qu'il y avait des sujets ou alors c'était un festival de blagues?
Il y avait des sujets. J'ai toujours essayé de raconter des histoires de toute manière. Faut reconnaître que je suis un peu plus engagé dans ce que je raconte maintenant. Il y a un peu plus de point de vue, il y a un peu plus de maturité aussi. Hein, je pense
vous avez pris du âge, de l'assurance.
Du poids.
Non, franchement, ça va.
Et 3 enfants, mine de rien.
Ouais,
je pense que quand
ça,
on devient papa...
Ça vous plombe.
Bah ouais, on regarde le monde même différemment. On y voit un peu plus d'enjeux.
Donc, au départ, on prend conscience
de plein de choses. Au départ, je parlais de ma relation avec ma copine. Aujourd'hui, je parle de ma relation avec ma femme. Donc, c'est une vraie grosse évolution. Non, je parlais. J'étais beaucoup dans le détail du quotidien. C'est vraiment, j'aimais bien ces humours d'observation. Aujourd'hui, je reste dans l'observation, mais je crois que ça parle un peu plus de sujets un peu plus dangereux, quoi. On parle de handicap, on parle de racisme, on parle de réchauffement climatique,
entre autres,
de plein de choses. Ouais.
Ça a été facile de s'imposer au départ pour vous?
Je crois qu'en vérité, j'ai jamais trop essayé de m'imposer parce que je pense que j'ai pas les atouts pour m'imposer.
C'est-à-dire,
j'ai pas de trucs très différenciants. Hein. Je suis un petit brun normal, plutôt gentil. Je suis marié avec ma femme, je l'ai rencontré il y a 17 ans. Je suis pas du tout rock pour le coup. Donc, je suis pas l'archétype du gars sexy qu'on va voir en spectacle. Donc, je pense que ma carrière est un marathon. Je pense vraiment que c'est juste à force de travail que je m'impose petit à petit. Disons que je finis par être là, quoi.
Au départ, vous avez fait le cours Florent.
Ouais.
Donc, vous rêviez acteur. Est-ce que être
non,
humoriste?
Pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non,
humoriste, c'est donc
voulais...
pas le plan B.
Vraiment, mon plan A, c'est humoriste depuis que j'ai 10 ans. Hein. C'est vraiment depuis que j'ai vu des mecs monter sur scène, raconter des trucs. Je suis passionné par ce métier. C'est pour ça que j'ai pas peur de m'imposer. C'est quand je le fais, à partir du moment où je monte sur scène et que je fais des blagues, j'ai presque envie de dire que s'il y a pas de gens dans la salle, c'est pas très grave. Moi, ça me passionne de raconter des trucs. Évidemment, je veux faire rire des gens, mais je suis passionné par ce métier-là. C'est pas un plan B. J'avais que ça en tête et ce sera une réussite tant qu'il y aura des gens pour m'écouter.
Quand vous avez commencé, on en était où dans l'humour, dans la production? Par exemple, quand Palmade a commencé, c'était la période du début des DVD. Quelque chose donc avait changé même dans la production. Et vous?
Eh ben nous, c'était quelques années avant YouTube. Je suis même assez dégoûté d'avoir raté le démarrage de YouTube. J'y suis arrivé il y a 4 ans maintenant. Mais c'est vers 2011 qu'on a commencé à pouvoir être indépendant, même vis-à-vis de la télé. Aujourd'hui, on me voit très peu à la télé, très peu dans les médias, parce qu'en réalité, le média que je me suis créé me suffit à remplir mes salles, donc c'est merveilleux. Et c'est le début de ces trucs-là, c'est l'arrivée de Facebook, l'arrivée... Donc finalement, la connexion nécessaire, je suis presque un vieux dans ces manières de communiquer, c'est les nouveaux artistes qui communiquent encore plus comme ça.
VOD pour Vérino à la demande, c'est du stand-up avec au programme des sujets aussi cool que la pédophilie, l'esclavage, la bagarre, le divorce, le cancer, la famille, vous êtes un jeune papa, on l'aura compris. Du stand-up diffusé et disponible en 4 épisodes sur votre plateforme de vidéo à la demande depuis le 15 juin, ça marche.
Ouais, ça marche super bien, je suis hyper content. Il y a 2 choses à la réussite, j'en parlais tout à l'heure. D'abord, il y a la réussite de faire l'objet, qui est pour moi l'objectif principal. Puis la réussite de voir que le public suit, quoi. C'est merveilleux de voir ces gens-là qui découvrent le spectacle. Parce que
économiquement, c'est viable?
Je pense pas.
Pas encore.
Vraiment, à mon avis, ça va être du très long terme. Mais j'ai de la chance de remplir mes salles, donc j'ai envie de dire. La question économique, elle est globale. Est-ce que je vis, est-ce que je nourris mes enfants? Oui. Est-ce que je vis de ma passion? Oui. Est-ce que je suis heureux? Oui. Bon, bah voilà. Après, est-ce que je suis riche? Non.
Quand vous avez commencé YouTube, vous étiez à combien de vues?
J'ai vraiment démarré ma première vidéo. Je pense qu'elle a fait 800 vues.
Ouais.
C'est vraiment, c'est drôle parce que, J'ai aucun mal à me faire chambrer et je crois que vraiment là, en termes de potes stand-upper qui me chambraient de me voir débarquer sur cette plateforme, on a été vraiment très très loin, parce que tout le monde se foutait de ma gueule, effectivement. Un gars qui, je remplissais déjà mes salles et c'était chouette.
Ouais, c'est ça, vous aviez déjà les salles.
Mais par contre, je faisais 800 vues parce que j'allais sur un média qui ne m'appartenait pas. Puis au final, aujourd'hui, je suis content du chemin parcouru. Parce que
combien, on est à combien de vues
là, je suis à 80 millions de vues cumulées. Et puis,
oui, je vois François Armanet qui se dit, tiens, peut-être un sujet
c'est
pour
le nombre d'entrées de votre film au cinéma.
Non, mais c'est vrai, c'est vraiment le...
Je pense qu'effectivement, c'est un nouveau média qui... Et du coup, on a une responsabilité aussi avec ça. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit ce nombre de vues, je me rends compte petit à petit que je suis obligé de pas dire n'importe quoi. On n'est plus dans de l'humour simple. On est dans des messages à faire passer.
Alors, il y a vraiment une révolution dans le milieu de l'humour. C'est que, par exemple, Tania Dutel, dont vous vous occupez, parce que vous êtes aussi producteur, et sur Netflix, Jérôme Commander...
Sur Amazon.
que vous ne produisez pas, vous créez une plateforme. Est-ce que ça veut dire que c'est là que ça se passe aujourd'hui pour les humoristes? En tout cas, on l'a bien compris, plus du tout à la télévision.
Plus du tout,
je sais
pas.
Pour le stand-up.
Oui, c'est ça, c'est difficile en fait. Est-ce que le stand-up a déjà eu une place à la télé? C'est compliqué.
Non.
La télé, c'est...
Il faut créer des sketchs, des personnages.
Il faut que ce soit accessible. À la télé, on était dépendant du public. C'est-à-dire que si je voulais faire un sketch à 17h, comme c'était le cas quand je faisais partie de l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, il fallait que je tape la cible à 17h. Donc il fallait que je m'adapte à la cible. Aujourd'hui sur YouTube, je faisais des sketchs, je me battais, je faisais du stand-up, mais je me faisais engueuler par la production qui me disait mais t'es débile, mets une perruque, joue des sketchs identifiés. Et j'étais d'accord avec eux. Quand je regardais la télé, je voyais bien que ce qui fonctionnait, c'était pas ça. Malgré tout, je suis idiot.
Oui, c'était
idiot,
Florence Foresti, c'est-à-dire c'était des gens qui créaient des personnages.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et encore Florence Foresti avec ce truc-là, c'est qu'à travers ses personnages transpirait sa personnalité. Donc, alors que moi, les miens, pas du tout. Moi,
ça ne transpirait pas votre personnalité.
Peut-être. En tout cas, j'étais pas heureux en personnage. J'aime le stand-up ou les micro-personnages qui vont vite. Internet nous permet de ne pas être dépendant de l'audimat puisque c'est l'audimat qui choisit de venir nous voir ou non. Alors après, c'est violent, hein. C'est-à-dire que si vous mettez mon spectacle à 20h50 sur TF1, il va y avoir des gens qui vont le voir. Si vous le mettez sur YouTube, je suis dépendant des gens qui ont envie, pas des gens qui sont devant leur écran à ce moment-là.
Ça demande une autre écriture quand même que de passer à la VOD. Je pense par exemple à la fin des 4 épisodes de votre spectacle que vous avez découpé en 4 épisodes. À la fin, il y a ce que j'appelle une micro-fiction.
Ouais.
Pourquoi fallait-il arriver à cette écriture-là alors même que vous êtes un héros du stand-up?
Je pense qu'on peut être un héros du stand-up, merci. On peut être un héros du stand-up en salle. Encore une fois, l'idée, c'est de réussir à toucher le spectateur en plein milieu de son cerveau. J'ai l'impression qu'avec la télé, l'écran de manière générale, il faut réfléchir aussi notre création en fonction du média. Quand on est sur scène, on parle, le média, c'est nous-mêmes, les gens sont là. Quand on est derrière un écran, le média est différent et j'ai décidé de travailler aussi en fonction du média. Et effectivement, réussir à illustrer, fictionner ce qui se passe dans un cerveau, parce qu'on parle de ça, on parle d'amener mon idée dans ton cerveau le plus vite possible. Donc, trouver un chemin, je crois que celui-là fait partie des chemins qui existent et je suis content d'avoir eu cette idée-là parce que...
Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à un scientifique du rire. Non, mais c'est vrai.
Je suis passionné, je vous l'ai dit. Hein.
François Armanet, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'il y a vraiment une réflexion sur, simplement où en est l'humour aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut rire de tout. Non, c'est vraiment sur le média de diffusion.
Oui, j'apprends le chiffre que vous citiez, c'est-à-dire multiplié par 10 000 ou 100 000. Enfin oui, c'est ça, de 800 à 80 millions.
En tout cas,
c'est sidérant. C'est un peu comme le chiffre du reste des inégalités
qui se sont
multipliées. Exactement. C'est-à-dire les hommes les plus riches du monde sont... 10 000 ou 100 000 fois plus riches que tout un commun. Donc, en même temps, ça ne veut plus rien dire. Voilà.
Tout est dans la démesure et je m'en réjouis pas. Enfin, je m'en réjouis ici pour mes chiffres à moi.
Bien sûr, j'espère.
De manière générale, effectivement.
Non, mais votre démarche, elle est impressionnante parce qu'elle est très raisonnée, elle est très claire.
Oui, et elle tue personne, contrairement.
Et c'est celle aussi.
Absolument.
Et c'est celle de quelqu'un qui réfléchit sur l'humour, notamment la façon qu'il a d'être diffusé et donc sur son écriture. Mais aussi, vous êtes un homme d'affaires, c'est-à-dire un producteur, notamment donc de Tania Dutel, mais de plein d'autres. À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait aussi passer du côté de la production et quel type d'humoriste défendez-vous?
Eh ben Vérino. Moi, je d'abord les humoristes que je défends, c'est vraiment notre génération. C'est-à-dire que je défends les humoristes libres. En fait, c'est ça moi qui m'intéresse.
Bah,
c'est que
qui est enchaîné
c'est très difficile de ne pas voir des chaînes quelque part, donc quelles que soient les conditions dans lesquelles on travaille de manière générale, parce que on, quand on veut s'adresser, je parlais tout à l'heure de la télé, on est enchaîné à l'audimat qu'on va toucher, on est enchaîné aux personnes qu'on
d'accord.
Enfin voilà.
Je vois.
Ouais. Les humoristes de la génération précédente, ils avaient tous des personnes très marqué. Aujourd'hui, c'est très difficile pour eux de se renouveler. J'admire toute la génération d'avant qui continue à se renouveler. On parlait de Florence Foresti, c'est l'exemple type de cette femme qui part du personnage, qui finit par exister dans une période donnée et qui aujourd'hui se renouvelle et arrive en stand-up comme une...
Alors que Muriel Robin, par exemple, à la rentrée, va faire un best-of de ses sketchs. Elle est obligée de les reprendre et non pas d'en créer des nouveaux.
Et peut-être que c'est la meilleure solution parce que...
Parce qu'il y a un répertoire.
Bah, c'est ça. Et parce que la génération d'aujourd'hui n'irait peut-être pas voir Muriel Robin, alors que la génération qui a découvert Muriel Robin a très envie de la voir dans ses conditions. Donc j'essaye aujourd'hui de effectivement soutenir la création de manière générale, d'être là où on m'attendra pas et de maîtriser tous les corps de métier. Je pense que j'aime être à la base du début jusqu'à la fin parce que j'ai l'impression que c'est que comme ça que je peux être fier de mon travail, qu'il plaise ou qu'il plaise pas. C'est-à-dire quand c'est un échec commercial, bon bah désolé les gars, je fais mon maximum, mais en tout cas c'est pas parce que oui mais on m'a dit de faire ça ou on m'a dit de faire ça ou les gens attendaient que, j'essaye pas de deviner ce que le public attend, donc j'essaie de soutenir les gens qui n'essayent pas de deviner ce que le public attend. On fabrique des trucs, le public choisit, c'est la force d'internet. Tania fait partie de ces artistes là qui sont effectivement qui proposent, qui sont des femmes aujourd'hui.
On va parler de rock. On va parler de rock.
C'est qu'aujourd'hui, en fait, être une femme, c'est au-delà. C'est même plus qu'être un être humain, parce que c'est des personnes qui ont évolué avec la contrainte de ne pas être un homme pendant toute notre génération. Et aujourd'hui, ces femmes-là qui arrivent sur le devant de la scène avec un discours féministe, on peut que admirer ce discours-là. Je suis fan de celui de Tania.
VOD, c'est sur la plateforme Vérino On Demand, et puis vous serez aussi sur scène hein, parce qu'il n'y a pas que la vidéo. Le 28 juin à Andrézy, le 29 août à Annecy, le 13 septembre, retour au point virgule à Paris.
Au grand point virgule.
Ouais, au grand point
c'est
virgule.
C'est pas le même endroit, c'est pour
ça que je reprends. Au grand point virgule.
C'est pas pour dire, c'est le
retour
grand.
Retour aux fondamentaux pour vous, Vérino. Vous restez avec nous. On va parler rock au féminin dans quelques instants.
Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Overprotected, way overrated, overglorified, overpetrified, overselected and celebrated, also terrified, beyond quantified, oversecluded and way overguarded, also idealized, overromantic. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? We'll wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides? Cold, body's empty, my flesh is sold. History drained, my heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and way overguarded, also idealized, overromanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides? Mm-hmm.
Vous avez reconnu bien sûr la voix platine de Jeanne Hadet sur Both Sides. Jeanne Hadet, chanteuse que l'on retrouve dans votre film, François Armanet.
Rendez-vous.
Le rock qui a changé le siècle. Un défaut de naissance, il est masculin, un truc de mec pour les mecs d'abord.
Être rock ou être soi, c'est la même chose. T'es en accord avec ta vérité.
Et si l'histoire qui fait naître le rock'n'roll commençait avec Piaf, quel plus bel acte de baptême de la passion rock, l'hymne à l'amour à mort.
Je trouvais ça très jouissif de voir une femme s'assumer, prendre sa vie en main et perdre le contrôle.
C'est une grande liberté, pas mal d'insolence.
Je venais d'un milieu avec des femmes qui étaient des femmes fortes et qui étaient très très libres, mais qui avaient toujours été d'une manière ou d'une autre au service des garçons.
Ah bah le sexe fort, à mort, à mort, à mort, etc.
Etc. Brigitte Fontaine qui a toujours la punchline qui tue. On a entendu aussi Vanessa Paradis, Lou Doyon. Elles sont entre autres les héroïnes de ce nouveau film. Oh les filles, François Armanet. Ça sortira mercredi prochain. Portrait subjectif de la scène rock au féminin. On y voit et entend Françoise Hardy, mon idole, Camélia Jordana, Jeanne Hadet, Imani, Charlotte Gainsbourg et j'en passe. Elisabeth Quint qu'on vient d'entendre en voix off. Qui dit Piaf en pionnière avec Mon Dieu en 1949, il y a 70 ans. C'est-à-dire là, c'est une relecture, c'est une surinterprétation, c'est une provocation, François Armanet.
Non, c'est un angle, comme vous le savez en journaliste. C'est-à-dire, et si le rock n'avait pas été inventé par Elvis en 54, voilà, qui est la date qu'on donne toujours, mais par Edith Piaf au moment de la mort de Cerdan. Le lendemain, dit la légende, on lui a écrit dans la nuit un autre de ses amants.
Charles Dumont.
Charles Dumont, voilà, pour ne pas le citer. Lui écrit Mon Dieu, et c'est un gospel universel. C'est la blessure, la déchirure, c'est toute l'âme dans un cri dans la nuit.
Et ça suffit pour en faire un hymne rock.
Bah, absolument, absolument. Ah oui. Comme Nina Simone et rock, comme... voilà.
Alors, mais alors
si
moment,
on prend
alors là,
rock comme ouais. une attitude, si on le prend au sens large, c'est-à-dire que si on est intègre, si on est sincère, Élie Médérose dans le film dit être rock ou être soi, c'est ça. Bah voilà, si c'est ça, on pouvait partir, en tout cas pour feuilleter 60 ans d'albums du rock français, de Brigitte Fontaine ou Françoise Hardy à Camélia Jordana. En aucun cas il s'agissait d'être exhaustif,
non, bien sûr.
Mais à travers 10 femmes remarquables, c'est aussi rencontre avec 10 femmes remarquables.
10 femmes puissantes.
10 femmes puissantes.
Alors justement,
10 sorcières.
Vous venez de citer, alors, en parlant de sorcières, vous venez de citer Brigitte Fontaine et Françoise Hardy, qui sont, on va dire, le départ hein, du film en termes de chronologie. Pour autant, Françoise Hardy et Brigitte Fontaine, même s'ils sont à peu près la même époque, c'est de parcours et des valeurs complètement différentes.
C'est-à-dire qu'elle démarre à une époque où, souvenez-vous, les femmes n'ont pas le droit d'avoir de carnet de chèques dans les années 60. La pilule est illégale. Je parle même pas de l'avortement, puisqu'il a fallu attendre le milieu des années 70. Donc dans les années 60, on est dans un patriarcat absolument monstrueux. Et ce sont deux femmes indépendantes, pas du tout de la même manière. Françoise Hardy, elle est auteure, compositeur. Elle se distingue parmi les yéyés.
Oui, mais elle est soumise amoureusement à son homme.
Oui, sauf que c'est une décision. Elle a décidé, en tout cas, de faire passer sa vie sentimentale avant sa vie professionnelle. Ça n'empêche pas que, jusqu'à aujourd'hui, elle écrit des chefs-d'œuvre.
Ah, c'est énorme. Vraiment formidable. Ouais.
Et simplement, en tout cas, elle décide sentimentalement, parce qu'elle est indépendante financièrement.
Financièrement, c'est très important.
Ça, c'est très important. D'une certaine manière, de se soumettre à cet amour de sa vie. Bon, Brigitte Fontaine, c'est une autre histoire avec sa folie, son décalage, cette espèce de chaînon entre chansons françaises et rock avec la bande d'Igelin, etc. Elle est synchrone avec le début du MLF, c'est-à-dire 71, elle signe le manifeste qu'on a appelé le manifeste des salopes, 343 femmes, dont
Catherine
Sagan, Duras,
Deneuve,
etc., affiche en une du Nouvel Observateur « Oui, je me suis fait avorter ». Elles prennent un grand risque, puisque c'est interdit, c'est illégal à ce moment-là. Donc là, c'est d'un courage inouï, et Brigitte Fontaine est l'une des très rares chanteuses à signer ce manifeste à ce moment-là. Donc elle ne part pas du tout de la même manière.
Brigitte Fontaine, comment elle a compris votre projet de faire comme ça le portrait d'une scène rock à travers les années, à travers donc
Alors, Brigitte Fontaine, elle vient de fêter ses 80 ans. Hein, c'est une date et elle est toujours aussi stupéfiante. Elle fonctionne par haïku absolument dément. Et en tout cas, dans le film, d'une certaine manière, elle le rythme à sa manière.
Ça commence sur Piaf, ça finit sur Brigitte Fontaine quand même.
Alors, si je peux provoquer comme Brigitte, voilà, on démarre avec Piaf qui chante la mort et Brigitte, c'est la mort qui chante. Voilà, bon.
Ah, vous avez vraiment le sens de la formule. Vous auriez pu titrer votre propre film.
Elle serait ravie, Brigitte. Elle dit non, je ne serai jamais allée faire le film. Et il a menacé de me couper les vivres. Oui, Brigitte, je peux le dire car je peux couper tes vivres. Comment? Mystère. Non, elle est fabuleuse.
Alors, quand j'ai regardé votre film, François Armanet, je me suis souvenu d'une chose, c'est que vous avez fait des études d'anthropologie et de sociologie. Ça vous a aidé pour parcourir ce territoire féminin rock?
Non, pas du tout, parce qu'en aucun cas un film ne démontre, voilà, il montre. Et puis par ailleurs, c'est les 10 femmes qui ont fait le film, donc c'est elles qui parlent. Et ça s'appelle Haut les filles, ça aurait pu s'appeler Haut les cœurs, et du reste dans deux sens, cœur avec un H ou sans H, parce que ces voix féminines, du reste quand vous les avez passées, on les identifie immédiatement.
Tout de suite.
Celle de Lou, celle de Brigitte, celle de Françoise, celle de Camélia, on sait que c'est elle. C'est-à-dire notre corps nous-mêmes, ce vieux slogan féministe, elles l'ont dans leur corps, dans la voix, et c'est aussi ce qu'elles nous font parcourir. C'est-à-dire une ode à la féminité, à la femme et au féminisme.
Qu'est-ce que vous leur avez demandé et qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas? Qu'est-ce qui vous a surpris en faisant ce film, François Armanet?
Je suis parti avec un angle, avec mon ami Bayon,
c'était la grande équipe de Libération.
C'est grosso modo le fondateur de la critique rock au quotidien. En tout cas, en France, ça n'existait pas avant lui. Donc, il y avait Danet pour le cinéma, il y avait Bayon pour la musique. Donc, on a écrit ça tous les deux avec donc ces angles un peu provocateurs, mais qui sont éminemment critiquables. Et en tout cas, on a été impressionné, dépassé. Au début, c'était simplement une idée originale. Oui, on n'a jamais raconté ou feuilleté l'album du rock français vu uniquement par les femmes, puisqu'en général, c'est un truc plutôt de mec. Voilà. Françoise Hardy, du reste, le dit très bien au début du film. Pour moi, le rock, pour les pays anglo-saxons, c'est Elvis, mais en France, c'est Johnny. Basta. C'est-à-dire, on pourrait dire que la définition du rock, c'est ça. Donc, on peut partir de ça, on peut partir d'autre chose. Et elles nous ont stupéfaits. Voilà, mais nous ont stupéfaits par la sororité et la résonance entre elles qui s'est dégagée au fil des entretiens. Bon, puis par ailleurs, on a trouvé aussi un paquet d'archives assez rares, puisque c'est un film musical.
Elles vous ont parlé aussi de la façon dont elles ont été coachées, j'imagine, par les hommes dans ce métier.
Oui, Lou Doyon en parle très très bien. En fait, elle a eu le premier flash musical de sa vie en regardant la télé en douce parce qu'on l'interdisait. Elle a vu Leretta Mitsuko, puis Niagara. Et en fait, là, elle a vu deux femmes fortes qui n'avaient rien à demander à leur mec, voire même qui...
Contrairement à toutes les chanteuses qui menaient la musique.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, qu'on nous montrait, quoi, parce que c'est ça. Moi, je suis de cette génération qui a vécu avec des héros hommes, quoi qu'il arrivait. Quoi. Donc, c'est beau de voir des héroïnes qui naissent du néant.
Et aujourd'hui, la scène musicale ici en France est beaucoup plus intéressante. Clara Luciani à Fishback,
Vendredi sur mer, Cléa Vincent, Juliette Armanet, dont vous n'êtes ni le père, ni le frère, ni le cousin.
Cousine éloignée,
les Armanet sont légion.
Je vais prendre ce nom-là, c'est beaucoup mieux
que Verino. Véritablement, vous pensez que la scène féminine...
Severiano Armanet, Armanetto, peut-être ça sonnerait pas mal.
Il y a Jeanne Haddad, il y a Christina de Queens, il y a bien sûr Camille. Ouais. Ça veut dire que véritablement, pour vous, la scène féminine aujourd'hui est plus importante que chez les mecs. Chez les mecs, il y a quand même aussi...
Parce que les femmes sont plus intéressantes que les mecs aujourd'hui.
C'est un discours post-MeToo, monsieur Armanet.
Non, parce que le film, on a démarré il y a 4 ans, donc bien avant, en fait, MeToo. Non, simplement, quand on voit, Trump, Erdogan, Bolsonaro, on pourrait les multiplier. Quand les femmes vont mal, les minorités vont mal, et que les hommes vont mal. Donc tout va mal. Et ça, on pensait qu'il y avait eu les conquêtes, justement, à la fin des années 60, au début 70, des femmes qui avaient réglé définitivement un certain nombre de choses. Quand on regarde les États-Unis aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 16 États américains qui soit interdisent, soit remettent en question l'avortement, on est en même temps dans un moment de régression incroyable, alors qu'il y a des avancées, en particulier sur les questions de genre, phénoménales. Donc on est à un moment où, en tout cas, les femmes sont encore plus au cœur de la bataille. Ouais,
Simone de Beauvoir l'avait bien prévu. Hein. Quand il y a un déficit idéologique, ce sont les femmes qui en prennent leur grade dès le départ.
Est-ce que c'est pas pour ça qu'elles sont justement plus intéressantes? Parce qu'elles vivent en dehors du confort masculin dans lequel nous, on est tous, quoi.
Bah, vous le disiez tout à l'heure, et ça croît ce que vous produisez.
Le stand-up, c'est
justement, le stand-up, c'est du rock.
C'est-à-dire la
présence. De toute façon, les stand-up femmes, c'est Tina Turner. C'est-à-dire, c'est des deux jambes plantées sur un plateau, et on y va, quoi.
Oui, Tina Turner, qui était partie à l'origine, en se faisant maltraiter par Hayek, et en se faisant produire par Phil Spector. Donc, ses chemins étaient aussi, avant difficile. De trouver son indépendance, il y a eu deux chemins.
Pour autant, à la rentrée, donc en septembre ou fin août, c'est pas Les Minettes que vous signez, c'est Les Minets pour un nouveau roman.
Mais là, vous
François
anticipez
Armanet.
Beaucoup.
Oui, j'anticipe un petit peu parce que justement, tout à l'heure, je parlais de ce film que vous aviez réalisé il y a quelques années, La bande du drugstore, ça avait été aussi un roman. Cette période vous tient tellement à cœur, celle que vous avez vécue, pour y revenir aujourd'hui avec Les Minets à la rentrée
En tout cas, plus, selon la bonne vieille définition que vous connaissez, plus c'est local, plus c'est universel, plus c'est ancré à un moment singulier et particulier, plus ça permet de raconter une initiation adolescente, sexuelle et politique.
Vous avez été un miné sexuel ?
Il n'y avait pas de sexe. Je veux dire, on ne pratiquait rigoureusement rien. À 15 ans dans les années 60,
C'est bon, là aujourd'hui, ils ont payé la dette. Hein.
Mais on ne savait même pas ce que c'était que la masturbation. C'est pour reprendre le début de l'émission.
Et puis on va parler de films de fesses dans la deuxième partie.
Donc on peut admirer les femmes, on peut admirer les filles et faire ce documentaire
aujourd'hui.
Tout en revisitant en tout cas des années 60.
Qu'est-ce que le François Armanet d'aujourd'hui doit à cette période?
La branlette, déjà.
Mais non, justement, elle n'existait pas.
Non, mais non, pas du tout.
Alors,
j'ignorais tout de ça.
Qu'est-ce que vous devez à cette époque?
Pas la moindre éducation sexuelle. Et même, comme on ne voulait pas faire croire que l'on ne savait pas, on ne savait rigoureusement rien, de toute façon.
Alors, qu'est-ce qui vous reste de cette période-là qui vous a manifestement construit pour que vous y reveniez, à part le style vestimentaire que vous avez, qui est toujours impeccable.
Merci. Merci, c'est celle des tailles qui tue. Oui, ça m'a appris sans doute le style, la rigueur, la contrainte. On apprend. Voilà.
Vous êtes rock, en fait.
On le dit jamais de soi, ça. Si vous me le dites,
Je vous le dis.
Merci.
Vous êtes rock.
Merci.
Et vous aussi, Vérino.
Ouais,
ça mange pas de pain.
On est tous rock. Vous êtes rock aussi.
Moi, je sais pas. Mais alors, surtout, il y en a un qui est rock. Parce que quand vous le regardez, cette ligne est incroyable.
Absolument.
C'est Soro Solo. On le retrouve tout de suite.
Vous pourriez mettre un disque?
Rendez-vous.
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais demander des nouvelles de celui-là.
Alors, Soro Solo, pour cette dernière chronique, L'Afrique en solo, la chronique, vous nous emmenez où?
Je l'ai dit, je le répète, la répétition a des vertus pédagogiques.
J'adore.
Je vous accompagne.
Oui, mais on a oublié depuis tout à l'heure, c'était au générique, je vous rappelle.
D'accord. Je vous accompagne dans l'océan Indien pour retrouver Elias Ben Djoba. Il vient de Moroni, c'est la capitale de l'archipel des Comores, c'est 4 îles. Et cet archipel est logé dans le canal de Mozambique, dans l'océan Indien. Ça, c'est pour la géographie. Et son nouvel album, Amani Way. En comorien, ça veut juste dire le chemin de la paix. Et les 10 compositions de cet album épuisent dans les racines des rythmes majeurs des Comores, c'est-à-dire les trois raves, le ngodro ou le chigoma. Et le tout assaisonné de rock, de blues ou de funk.
Majale wodi jarambe hali halele Wenji wazamba rangu hale si majale wodi jarambe hali halele Wenji wakushie manga watashie riziki
La Carode, c'est une autocritique des Comoriens parce que l'artiste constate qu'il y a une discorde incessante entre les citoyens comoriens et les exhorte au dialogue et à l'unité.
C'est un beau message. Alors moi je m'interroge parce qu'en fait Elias titre son album Chemin de la paix, oui. Mais son pays n'est pas en guerre.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de guerre en ce moment dans l'archipel des Comores, mais depuis son indépendance en 1975, les Comores sont agités par d'incessants coups d'État ou de tentatives de coups d'État. On se rappelle du célèbre Bob Denard, le mercenaire français, qui a fait et défait les régimes de 1975 à 95, quasiment 20 ans de présence. Et cette instabilité, que ce soit du fait d'un mercenaire ou du fait de l'intérieur, cette instabilité a forcément impacté le développement de l'île. Donc ça a provoqué une migration incroyable. Et les trois autres îles aujourd'hui, ont la haine contre Mayotte depuis que cette dernière est devenue le 101e département de la France.
En 2011, c'est très récent. Oui.
Exactement. Et ce sont toutes ces problématiques qui sont le propos de Amani Wade Elias.
François Armanet, ça vous plaît?
Absolument.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais,
hein.
C'est swing, très bien.
Verino?
Ouais, moi aussi,
ouais,
j'aime beaucoup.
Bien, ouais, c'est bien.
Ouais, comme je vous l'avais dit, c'est le Toara Blues. En fait, c'est à use de la métaphore. En présentant les politiciens des Comores comme une plantation et les citoyens électeurs comme les planteurs de ce champ. Et donc, il dit, le peuple récolte donc ce qu'il a planté. Ailleurs, on dit, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Et Amani Wade Elias Ben Djoba sera sur le marché en automne prochain.
Alors c'était la dernière chronique aujourd'hui, une chronique qui nous a fait tant voyager sur Rossolo, mais vous reprenez du service cet été, vous êtes un des héros de la grille de France Inter, du lundi au vendredi à 21h, le titre c'est quoi?
Le titre c'est toujours de l'Afrique en solo.
Mais vous ne vous êtes pas foulé?
Non, je ne me suis pas foulé, mais attention, chaque jour, une thématique spéciale.
Ah.
Le lundi, la discothèque de quelqu'un, le mardi, exclusivement dédié aux femmes, ça s'appelle Tempo Féminin Singulier.
Manifestement, c'était le sujet de l'énervé aujourd'hui. Alors, je vous propose d'écouter aujourd'hui, mais non pas une femme, mais les Californiens d'Electric Guest. Ils avaient fait appel à la Rolls des producteurs d'Angle Mouse pour leur premier album Mondo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché.
I'm
ça date de 2012, mais le son d'Electric Guest, ça marche encore. Ah, petit générique, vous avez compris. Donc, le NRV première partie, c'est fini. Je rappelle que Oh les filles, le film de François Armanet, sortira en salle mercredi prochain et que pour les minés, il faudra attendre août et la rentrée littéraire. On se retrouve dans 15 minutes, ce sera après le journal, avec ça.
Ce que je voudrais produire, c'est des films érotiques pour les femmes, où l'on verrait des hommes à poil.
FFF, Festival du film de fesses. Et oui, c'est au programme du NRV la suite. Le rendez-vous est pris, j'espère. A tout de suite.